Voilà, donc pour cette intervention, j'ai construit mon topo autour de quatre parties. Je vais faire un petit rappel historique sur l'Église et le sport. Puis ensuite, je parlerai des origines du document Donner le meilleur soi-même. Ensuite, je parlerai du phénomène du sport aujourd'hui qui correspond aux quatre premiers chapitres du document. Et je terminerai avec la place essentielle de l'Église dans le sport, qui est le cinquième chapitre de ce document, qui me paraît le plus important pour nous, qui peut amener à de nombreuses réflexions. Alors, je ne vais pas vous faire une histoire complète de l'Église et du sport, il y en a qui l'ont écrit dans de nombreux bouquins, mais je voulais partir à partir de deux anecdotes. Il y a plus de 120 ans, avant que les Jeux Olympiques soient relancés, il y a un prêtre, on l'avait évoqué hier, le père Henri Didon, qui organisait des rassemblements réunissant plusieurs établissements scolaires catholiques pour vivre une compétition avec différents sports. Alors le baron Pierre de Coubertin va le solliciter pour organiser une compétition avec des établissements scolaires publics. Et sur les maillots des sportifs de l'école du Père Didon, il y avait la devise « Plus vite, plus fort, plus haut » que le baron Pierre de Coubertin reprendra comme devise des Jeux Olympiques modernes. Une invitation à progresser, chacun selon son niveau, et où l'on peut s'améliorer, devenir meilleur. On connaît aussi une formule qui a souvent été déformée et qui était résumée souvent dans « L'importance est de participer ». Souvent, on disait cette formule pour dire, voilà, on a perdu, mais l'important, c'est de participer. Alors, c'est à la fois vrai et pas tout à fait. Et là aussi, ça vient encore de l'Église, puisque c'est en 1908, lors des quatrièmes Jeux Olympiques à Londres, que Monseigneur Ethelbert Tabo, évêque de Pennsylvanie, lors d'une homélie, va donner cette formule suite à quelques petits problèmes entre des athlètes américains et des arbitres anglais. Et donc, ce qu'il avait dit, c'est que le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. On pourrait résumer cela, l'important, c'est de donner le meilleur soi-même, qui est quand même un peu différent de dire que l'important, c'est d'avoir été là et d'avoir participé. Alors, c'est que deux anecdotes, mais elles sont révélatrices de la place de l'Église dans le sport naissant ou renaissant. Et dans de nombreux pays, le sport s'est développé grâce à de nombreux chrétiens, prêtres, religieux, laïcs, qui vont mettre en place des patronages, des associations et des clubs qui seront regroupés dans des fédérations nationales comme en France avec la FSCF et l'UCL que nous avons évoqué hier, ou à l'international, avec tout d'abord l'Union internationale des œuvres catholiques d'éducation physique, l'UIOCEP, l'ancêtre de la FICEP, il y aura aussi la FICEC qui sera créée, et cette union internationale va être faite à la demande du pape dit Pie X. Alors si j'évoque ça, c'est aussi parce que les papes vont jouer un rôle important dans la pastorale du sport. On évoquait que des fois avec des évêques c'était un petit peu dur, mais par contre avec les papes ça s'est bien passé, parce que on peut dire que le pape Pie X est un peu le premier pape sportif. En fait, il va rencontrer les premiers dirigeants du sport, il va rencontrer plusieurs fois le baron Pierre de Coubertin, Charles Simon qui était le secrétaire général de l'ancienne FSCF, pas avec le même terme, de la FGSPF, il y a toujours plein de sigles. Et il va encourager les différents acteurs au niveau du sport. Et ce sera on va dire officiellement, le premier pape à parler du sport. Il fera plus de 20 interventions durant son ministère à partir d'audiences, de lettres, de discours ou d'autographes. À la suite, les autres papes vont aussi développer ces sujets-là. Le pape Pie XI va continuer cette attention au sport. Et c'est vraiment Pie XII qui va lui donner une place essentielle. Durant ses 20 ans de papauté, il va faire plus de 70 interventions sur le sport. Même le pape Jean XXIII, dans son court pontificat, portera une attention particulière au sport. Et alors, bien sûr, le pape Paul VI, pardon, fera 90 interventions. Mais le champion du monde, c'est bien sûr Jean-Paul II, qui fera plus de 300 interventions sur ses 26 années de pontificat. Et en plus de ces différents textes, des jubilés pour les sportifs qu'il va organiser, il va créer dans le dicastère du pontificat pour les laïcs au Vatican, une section Église et sport pour mettre le sport au cœur de la pastorale. Et donc il nommera le père Kevin Lixey, légionnaire du Christ américain, comme responsable de cette nouvelle section. Et donc il y avait 5 objectifs à cette section. Être dans l'Église un point de référence pour les organisations sportives nationales et internationales, en premier point. En deuxième point, sensibiliser les églises locales à l'importance de la pastorale dans les milieux sportifs, leur rappelant en même temps la nécessité de stimuler la collaboration entre les associations de sportifs catholiques. En troisième point, favoriser une culture du sport comme moyen de croissance intégrale de la personne au service de la paix et de la fraternité entre les peuples. En quatrième point, promouvoir l'étude de thèmes spécifiques ayant trait au sport, surtout du point de vue éthique. Et cinquième point, organiser, soutenir des initiatives suscitant à viser des témoignages de vie chrétienne parmi les sportifs. Donc voilà un petit peu quels étaient les axes de cette nouvelle section. Et voilà donc, c'est ce qui va être à l'origine, donc en deuxième point, les origines de ce document « Donner le meilleur soi-même ». Donc le père Kevin Lixey va être pendant 8 ans responsable de sa section. Il va donc mettre en œuvre ses différents objectifs en créant des liens avec les différents pays qui ont déjà des pastorales du sport et en prenant des contacts avec les acteurs des autres pays pour les encourager à mettre en place des organisations nationales. Alors cette dynamique va être facilitée par l'organisation de plusieurs séminaires internationaux au Vatican. Alors, les différents actes de ces séminaires sont disponibles sur le site Église et Sport en français. J'ai réussi à les finaliser avant le mois de septembre, parce qu'il m'en restait encore, il y en a eu 4. Donc, le premier séminaire s'est déroulé en 2005. Le thème était « Le monde du sport aujourd'hui ». Et il avait permis de poser les bases du sport et de l'Église sur différents aspects, que ce soit historique, éthique, au niveau du magistère, par rapport aux associations, la place des aumôniers et les événements sportifs. Et donc, il y a eu de nombreux spécialistes qui sont intervenus. Il y avait notamment le français Clément Schlesinger, qui a été de nombreuses années président de la FSCF et aussi de la Fédération internationale. Il y a eu aussi plusieurs tables rondes, qui ont évoqué notamment les problèmes et les challenges dans le monde d'aujourd'hui et le sport comme frontière de la nouvelle évangélisation. 2 ans plus tard, en 2007, le deuxième séminaire international va s'adresser plus particulièrement aux aumôniers sportifs avec le thème « Le sport, un défi pastoral et éducatif ». Et donc ce séminaire a été l'occasion de travailler sur le ministère pastoral du sport, d'avoir une dynamique commune et de réfléchir à la place du prêtre, d'écouter les expériences des différents aumôniers. Et parmi les Français, il y avait donc le père Raphaël Comiotto qui a parlé de son engagement auprès des rugbymans. Et donc on a pu aussi, lors de ce séminaire, entendre les attentes des différents acteurs du sport par rapport aux aumôniers, que ce soit des dirigeants, des sportifs ou des entraîneurs. 2 ans plus tard, on aura en 2009 le troisième séminaire international autour de la thématique « Le sport, l'éducation et la foi pour une nouvelle étape dans le mouvement du sport catholique ». Alors, ce séminaire a été l'occasion d'élargir les réflexions à tous les acteurs de la pastorale du sport. Il a été évoqué aussi par différentes interventions qu'est-ce que c'était qu'un vrai champion dans le bon sens du terme, mais aussi d'aborder la question des associations et des sportifs chrétiens et comment les champions pouvaient aussi être des témoins. Alors à la suite de ces 3 séminaires, il va y avoir des mises en œuvre sur le terrain. Puis, à la suite de Kevin Nixé, il va y avoir Santiago Pérez de Camino, un Espagnol, un laïc espagnol, qui va être nommé comme responsable de cette section du Vatican. Et donc, il va initier un quatrième séminaire international sur les entraîneurs et leur place essentielle dans l'éducation des jeunes, des champions. Donc, ce séminaire s'est tenu en 2015. Donc, ce séminaire était ouvert très largement pour donner lieu à de nombreuses interventions d'entraîneurs, mais aussi d'universitaires sur leurs travaux. Gilles Lecoq était présent à ce séminaire. Et c'est dans cette dynamique aussi que la réflexion va s'élargir plus largement que la section Église et Sport. En effet, on va avoir le Conseil pontifical pour la culture qui va organiser en 2016 une conférence sur le thème Le sport au service de l'humanité. Alors, ces différentes interventions, ces différents événements ont été diffusés par la Librairie Vaticane et la question se posait d'avoir un document de base de l'Église pour tous les acteurs de la pastorale du sport. Et c'est ce qui va être fait en juin 2018 avec le nouveau dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, qui va donc proposer ce document, donner le meilleur de soi-même au sujet des perspectives chrétiennes sur le sport et la personne. Donc le phénomène du sport aujourd'hui, c'est ce qui va un petit peu, je dirais, balayer ce document-là, donc qui est composé de cinq parties. Donc je vous ai mis dans les dossiers le message du pape François, qui avait adressé voilà, ce message au cardinal Farren. Il a exprimé sa joie de la réalisation de cette production du dicastère, et qui a réaffirmé, comme il le fait dans ses nombreuses interventions, que le sport est un lieu de rencontre, de formation, de mission et de sanctification. Et le pape de prier pour que ce document produise des fruits abondants, aussi bien dans l'engagement ecclésial pour la pastorale du sport, ainsi que dans toute la sphère ecclésiale. Donc on a différents chapitres dans ce document. Ces chapitres sont inégaux. Il y a certains chapitres qui, je dirais, sont plutôt historiques et d'autres qui vont amener plus une réflexion. Donc le premier chapitre va expliquer les motifs et les buts du document. Alors dans votre dossier, je vous ai mis le plan de donner le meilleur de soi-même. Donc le titre Donner le meilleur de soi-même permet de faire le lien entre ce que nous sommes invités à vivre dans le sport, mais aussi dans la foi chrétienne, dans tous les aspects de notre vie. Donc ce premier chapitre nous rappelle que l'Église, forte de ses 2000 ans d'histoire, a une expérience riche et profonde de l'humanité, et qu'elle peut aider le monde des sports dans son développement pour le bien de chacun. C'est aussi une occasion officielle de présenter la façon dont l'Église catholique voit positivement le sport. Il est important de noter que les auteurs soulignent que l'Église veut adresser ce document à tous les fidèles catholiques, en commençant par les évêques et les prêtres, mais surtout aux laïcs qui sont les plus en contact avec le sport. Et ce document insiste sur la nécessité de la pastorale du sport comme une tâche essentiellement éducative. Alors, vous l'avez peut-être vu que généralement, on l'a évoqué, au Vatican, le français n'est pas forcément une langue qui est très utilisée. Donc, comme beaucoup de documents, ils ont été traduits en italien, en anglais, puis une version espagnole est arrivée. Et donc, j'ai travaillé une traduction française, parce que je n'étais pas forcément sûr que la traduction française arriverait. Et j'en ai profité pour l'envoyer à tous les évêques de France, pour leur présenter ce document et les inviter à transmettre aux acteurs de la pastorale du sport dans leur diocèse, pour leur dire que c'était un enjeu essentiel dans la pastorale des jeunes et de l'évangélisation. Et puis là, au moins, ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, puisqu'ils avaient le document. Donc j'en ai pas mal qui m'ont quand même répondu, en disant qu'ils étaient intéressés par ce document. Ah, je pourrais vous les dire si vous voulez, mais ce n'est pas le plus important. Donc, il y en a aussi qui en dit, bah, voilà, je transmets aux personnes compétentes, etc. Le deuxième chapitre de ce document parle du phénomène du sport et resitue le sport dans l'histoire pour mieux le comprendre dans sa forme actuelle et quelles sont les principales caractéristiques. Alors, pour nous qui sommes un petit peu habitués au monde du sport, ce chapitre nous apprend pas forcément beaucoup de choses, mais ça nous fait une présentation depuis les balbutiements des siècles précédents dans certains pays, jusqu'à l'omniprésence actuelle au niveau mondial, qui est symbolisée par le développement des Jeux Olympiques. Donc dans ce chapitre, après la revue historique, c'est une présentation du sport qui est faite comme associée au corps humain en mouvement, comme une activité ludique, comme une performance soumise à certaines règles, comme une compétition où l'égalité des chances est garantie. Et enfin d'aborder les différents contextes dans lesquels est pratiqué le sport, le jeu, l'éducation, la compétition, au niveau économique, au niveau politique. Alors sur le troisième chapitre, on va avoir un aspect plus autour de l'importance du sport pour la personne. Donc dans un premier temps est évoquée l'Église catholique, qui a toujours parlé de l'homme créé à l'image de Dieu avec une vision unifiée, corps, âme et esprit. Leurs différentes définitions vont aider à percevoir le sport comme un moyen de développement complet de la personne et comprendre le vrai sens des mots liberté, règles, créativité, coopération. Ensuite, les auteurs du document nous font un développement de valeurs essentielles du sport, comme le fair play, la notion d'équipe, d'objectif commun, le sacrifice et la discipline, le courage, l'égalité, le respect, la solidarité, mais aussi que le sport doit apporter de la joie, qu'il doit permettre le développement harmonieux de la personne et qu'il doit révéler la quête du sens ultime. Voilà, toutes ces valeurs peuvent être sublimées si elles sont vécues sous le regard de Dieu. Alors le quatrième chapitre, lui, va aborder les défis du sport à la lumière de l'Évangile. Et donc là, on va être un peu plus dans le présent du sport, comme il est vécu avec ses beautés, mais aussi avec ses noirceurs. Et donc, ce document nous parle que l'Église doit être invitée à savoir reconnaître et valoriser toutes les bonnes choses du sport, mais aussi de pouvoir dénoncer toutes les menaces et les mauvaises directions qui le guettent et à aider à remédier. Car nous le savons tous, le sport peut être menacé par des intérêts politiques, économiques, médiatiques. Le sport est donc maintenant une réalité multiforme. Il est important de pouvoir être attentif à tous ces aspects et à tous les acteurs possibles. Et donc, ce document nous identifie quatre défis, plus particulièrement, pour un travail des acteurs de l'Église. La place du corps dans le sport et dans la société, avec son possible avilissement. La question du dopage sous toutes ses formes, drogue, triche, technologie. La corruption et les intérêts financiers et politiques. Et le rôle des spectateurs et des fans. Là, on est sur un chapitre qui est plus, entre guillemets, dans l'actualité. Alors, si les précédents chapitres ont recherché à mesurer, à évaluer le sport, sa signification et ses diverses dimensions à la lumière de la compréhension chrétienne de la personne et d'une société équitable, le cinquième et dernier chapitre est d'une importance primordiale, tout particulièrement pour nous, car il pose les bases et les enjeux essentiels que nous devons mettre en place pour une pastorale du sport efficace au service de tous. Et donc, dans ce chapitre, je vais le développer un petit peu plus, mais on pourrait y passer énormément de temps, parce que il y a de nombreuses questions qui sont posées, de nombreuses réflexions qui peuvent être amenées à être développées. Alors tout d'abord, il est rappelé dans ce chapitre que l'Église est à la maison dans le sport. En effet, l'Église est présente dans le sport depuis les origines et promet une vision chrétienne du sport sous différentes formes et à différents niveaux. Aujourd'hui, au niveau international, national et local, l'Église agit du point de vue institutionnel, pastoral et culturel. Et si dans de nombreux pays, tous les acteurs de la pastorale, évêques, prêtres et laïcs ont perçu l'importance de ce lieu d'accompagnement et d'évangélisation, dans des pays comme la France, de nombreux diocèses n'ont pas encore compris tout le sens du sport dans la pastorale des jeunes. et de cette possibilité de rencontrer des personnes de différents milieux et dans différentes conditions de vie, et comme il peut être le parvis moderne des gentils, comme le pape aime à le rappeler. Alors dans ce chapitre, si on met en lumière le fait que l'Église est à la maison dans le sport, on parle aussi du sport qui lui aussi est à la maison dans l'Église. En effet, pour nous, le sport est au service de la personne dans son développement complet. Et il y a de nombreux enjeux dans cette pastorale. Aider à percevoir que le sport est une expérience éducative d'humanisation. Profiter de nos établissements catholiques pour vivre l'éducation physique et sportive comme un élément essentiel de l'éducation et du développement de l'enfant dans sa totalité. Philippe hier nous a donné quelques éléments. Créer une culture de la rencontre et de la paix à travers le jeu. Vivre le sport comme une œuvre de miséricorde pour les jeunes défavorisés. Le sport est aussi un élément primordial pour une culture d'inclusion pour tous, personnes ayant un handicap, réfugiés, femmes. Voilà, donc comme l'évoquait Gilles hier dans la question de l'attention que vous pouvez développer. Dans un paragraphe suivant de ce chapitre, on nous présente quels doivent être les acteurs du ministère pastoral du sport. Il est le point le plus important pour que la pastorale du sport puisse vraiment se développer et prendre pleinement toute sa place dans l'Église et le monde. Comme dans la foi, les premiers éducateurs sont les parents. Et donc, ce document nous dit qu'il est important que les parents soient aussi éduqués aux valeurs et aux vertus humaines et spirituelles du sport, pour devenir de bons enseignants pour leurs enfants. Souvent, on parle de la place des entraîneurs, des coachs, mais les parents peuvent avoir ce rôle. On l'a évoqué hier un petit peu dans l'aspect que, voilà, des fois les parents poussent leurs enfants, mettent la pression sur leurs enfants, c'est-à-dire quelle place aussi on peut avoir autour des parents. Et donc les diocèses, les paroisses, les prêtres, mais aussi les laïcs, doivent promouvoir cette pastorale, se donner de vrais moyens, faire des propositions sportives et spirituelles, faire des homilies sportives, c'est ce qui est évoqué dans le document. Et ce document parle aussi des professeurs et des enseignants des écoles et universités qui ont un rôle, pas seulement technique, mais éducatif. Et bien sûr, les entraîneurs et les dirigeants des associations qui ont une place active dans cette pastorale. Et on n'oublie pas les nombreux chrétiens qui œuvrent et doivent aussi percevoir le lien entre sport et foi. Et bien sûr, il y a l'aspect que Joël a évoqué ce matin, le sport professionnel, qui doit être à la fois le lieu de la présence d'aumôniers formés, mais aussi aider les sportifs à bien vivre leur sport, et pour les croyants, témoigner de leur foi. Et on évoque aussi l'importance que l'Église soit présente dans les médias sportifs, sites internet, réseaux sociaux, au niveau universitaire aussi, hein, sciences du sport, médecine, et dans les nouveaux lieux du sport. Et donc, après avoir évoqué tous les acteurs possibles de la pastorale du sport, ce document invite à qu'il est important de prendre soin de tous ceux qui rendent un service à l'Église par le sport. Donc, pas simplement de dire il faut du monde dans la pastorale du sport, mais comment on les forme, comment on les aide à bien vivre leur mission. Et donc, l'Église est quand même riche avec ses différentes institutions de formation. Et il doit aussi pouvoir proposer des formations pour les éducateurs sportifs, professeurs, entraîneurs, arbitres, et pouvoir créer des moments de rencontre et de discussion avec les parents, accompagner les bénévoles, avoir des prêtres compétents, attentifs et dynamiques. Et ça nous dit aussi que cela doit être inclus dans la formation des séminaristes. Ça, il y a peut-être encore un petit peu de boulot par chez nous. Et donc, le dernier paragraphe de ce chapitre va rappeler tous les éléments fondamentaux de la pastorale du sport. Ça a été listé, je crois bien, sur le document, avec la beauté du sport au service de l'éducation, le sport pour reconstruire le pacte éducatif, le sport au service de l'humanité, jouer comme base du sport, travailler en équipe contre l'individualisme, le sport pour tous et une vision écologique du sport. Alors en conclusion, je pourrais dire vraiment que c'est un document qui est un document de base, Alors même si, je dirais, les premiers chapitres et les premiers paragraphes peuvent nous dire on connaît, je pense que c'est vraiment une volonté dans ce document de nous donner vraiment des bases, de nous resituer. Et c'est vraiment le chapitre 4, mais surtout le chapitre 5, qui est vraiment d'une grande richesse et qui, à mon avis, nécessite d'être travaillé et de pouvoir accueillir toutes les questions qui sont posées. Il y a de nombreuses questions, de nombreuses idées. Et je dis, si on en faisait déjà la moitié, ce serait exceptionnel. Mais voilà, ça nous lance dans différents aspects. Et on voit bien que ce document a la volonté de pouvoir infuser dans tous les acteurs de la pastorale et d'aider à faire comprendre l'importance du sport à tous les niveaux. Et donc, je pense que ça peut être un document essentiel à travailler. Alors, il a maintenant 2 ans, mais je pense que pendant des années et des années, il pourra être, je dirais, un point de référence qui n'empêchera pas de faire des choses. Au niveau du groupe de travail Église et Sport, il va y avoir un document épiscopat qui sera fait, mais Alain nous en parlera un petit peu plus demain. Mais je pense que ce chapitre 5 est vraiment essentiel. Et de pouvoir le lire, le relire, le travailler, et de voir comment on peut développer les différents aspects peut être des éléments essentiels. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions ou peut-être des compléments sur. Oui, Philippe.
On retrouve l'ensemble des contenus sur le site internet, c'est bien ça.
Voilà, c'est-à-dire que voilà, ce document, il est sur le site, sur les sites Église et Sport. Il est aussi sur le site du Vatican, où ils en ont fait, voilà, ils l'ont sorti, donc voilà.
Il est en traduction française aussi sur le site du Vatican.
Oui, ils ont repris ma traduction. Voilà, puisque je l'avais.
Ça paye?
Non, ça paye rien du tout, non, c'est pour le plaisir. Mais voilà, c'est vrai que quand j'ai fait le document, donc effectivement, je l'avais envoyé à Santiago, et puis c'est le cardinal Farrell qui m'avait répondu en disant que c'était intéressant, à la fois pour tout le monde francophone, mais il précisait surtout pour tous les pays francophones de l'Afrique notamment, en disant qu'il y avait peu de documents qui existaient, donc c'était important d'avoir justement des documents en français. Alors c'est vrai que j'avais depuis plusieurs années travaillé avec d'autres à la traduction des différents actes, des différents séminaires du Vatican, pour qu'on ait aussi ces documents-là, parce qu'ils étaient sortis qu'en anglais. Et puis, voilà, de différents documents qui ont pu être faits dans d'autres pays, de pouvoir aussi en faire profiter. Donc c'est pour ça que je suis sans cesse à la recherche de traducteurs. Donc j'ai eu la chance d'avoir sur mes paroisses des très bons traducteurs en espagnol, en anglais, donc je les ai fait bosser. Mais c'est vrai qu'il y a toujours énormément de documents qui sont faits, et c'est vrai qu'il y a pas mal de pays qui sont très en avance et qui fonctionnent bien. Si on peut prendre l'Italie, mais des pays comme l'Allemagne, la Pologne, comme je disais je sais plus à qui hier, la Pologne, chaque diocèse a son aumônier de la pastorale du sport. Et chaque année, il y a 2 retraites au niveau national pour les aumôniers de la pastorale du sport. Voilà, ça laisse rêveur, mais on se dit, ça arrivera peut-être dans quelques années en France. Mais voilà, donc des pays comme la Pologne, comme l'Allemagne, ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors, je ne veux pas dire que nous, on part de rien, parce qu'on a quand même. On a quand même des entités qui existent depuis longtemps, la FSCF, l'UXEL, mais voilà, il y a besoin, quand j'ai créé sur le diocèse de Clermont le service diocésain de la pastorale du sport, c'était aussi pour dire, voilà, il y a les mouvements qui existent déjà, mais voilà, il faut qu'on ait une réflexion aussi plus largement, parce que le travail de la FSCF et de l'UXEL est important, mais touche pas tous les sportifs. Et donc, c'était de se dire, voilà, comment sur les diocèses, au niveau national aussi, on essaye d'avoir une pastorale qui s'intéresse à tous les sportifs. Voilà.
Juste une petite réflexion.
Oui.
On a l'habitude de surveiller d'assez près les traductions françaises parce que ce qui traduise automatiquement en français, c'est souvent moyen.
Voilà, donc.
Donc je le cite, je le signale au passage, même si on avait des traductions françaises, il faudra regarder de près à chaque fois. On a eu quelques soucis pour quelques documents, avec y compris quelques contresens, ce qui peut être embêtant.
Voilà.
Par exemple, le document sur les finances ou le document, pas d'autres documents, je vais pas vous faire la liste, mais on a eu quelques soucis. Donc c'est important et je crois que c'est important aussi qu'on repère bien quelle est la langue d'origine du document. Dans quelle langue d'origine il a été fabriqué.
Voilà. D'accord, oui, si vous n'avez pas bien entendu, effectivement, les traductions des fois faites en français du Vatican ne sont pas forcément toujours très, très bonnes. On le voit notamment avec les traductions du missel, où ça a été très compliqué, ça a duré longtemps. Donc c'est vrai que quand c'est, entre guillemets, les Français qui font les traductions, ça arrive effectivement à avoir des traductions plus fidèles. Alors c'est vrai que sur la pastorale du sport, bon, tous les séminaires ont été écrits en anglais d'abord et après traduits en italien. Alors il y en a plusieurs, enfin, dans les traductions que j'ai faites, il y en a certains qu'on a pris qui étaient des interventions qui étaient directement il y en a sur les deux derniers, notamment sur les deux derniers séminaires, on est parti à partir des langues des intervenants, puisque sur le dernier séminaire, oui, en 2015, il y avait des Espagnols, des Allemands qui étaient intervenus. C'était sur le site du Vatican, dans la langue du pays. Donc j'avais des spécialistes en espagnol qui m'ont traduit en français. Et puis, notamment Raphaël Comiotto avait fait son intervention, j'avais eu l'original en français. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir être attentif effectivement aux traductions, que les traductions soient bonnes et ne fassent pas des contresens.
J'ai une question au niveau du contenu. Il n'y a pas un chapitre vraiment sur la spiritualité sportive. Alors, c'est peut-être présent dans différents parties. Et alors, je poursuis un peu. Bruno a écrit quelque chose sur la spiritualité du football. Petite plaquette. Moi, j'ai écrit un petit article sur la spiritualité du vélo. Je dis qu'il pourrait y avoir un travail à faire qui serait intéressant aussi à poursuivre, pour nous peut-être, mais à la fois sur la spiritualité du sport de manière globale et puis sur la spiritualité des différents sports. C'est-à-dire que tellement il y a une expérience spirituelle qui est vécue dans certains sports qui ne va pas être la même. Enfin, ce n'est pas la même chose effectivement en athlétisme, en football, en cyclisme.
Ça peut être intéressant, alors ça peut, enfin, entre guillemets, se décliner sous la forme de différentes choses. Tout à l'heure, Bruno me parlait de faire un petit livre avec différents intervenants sur un sujet précis, ça pourrait être ça, ou alors d'avoir un séminaire ou un congrès. Ça peut être aussi une proposition qui peut être faite à Santiago pour un prochain séminaire international. Ça peut être c'est vrai que ça peut être effectivement une idée. C'est vrai que sur chaque, au niveau du Vatican, chaque séminaire avait une thématique particulière, et effectivement on a pu aborder la spiritualité, mais pas forcément en tant que telle. Et c'est vrai que maintenant la section Église et Sport au niveau Vatican a 15 ans d'existence, donc on peut avoir des... Alors après il y a la volonté aussi que des choses se fassent, pas forcément toujours au niveau du Vatican, mais ça peut se faire sur un pays, sur un continent. Donc c'est effectivement une idée à creuser.
Oui, j'ai donné un côté ce matin, Joël. J'ai réalisé après un week-end qu'en fait il y a plusieurs écoles de la spiritualité en France par rapport au sport. Et ça, c'est assez important en vue des Jeux Olympiques, que c'est un des travaux que Denis a proposé, mais en disant que je suis issu finalement indirectement d'une école de l'enfouissement, Moi, je fais partie je suis arbitre de la Croisère. Donc, moi, je suis de la cité où on ne dit pas. On ne va pas dire. Pour autant, il se joue sans les plus choses. Très important, à travers de nombreux prêtres qui m'ont toujours soutenu, pour dire ce que tu fais là, ça ne se dit pas, mais c'est important. C'est-à-dire qu'à travers ça, c'est tous les chrétiens qui font des choses sans le dire. Et là aussi, on tient à ce que les chrétiens essaient d'exprimer les mots. Il y a toute l'école de la spiritualité qui est basée sur ça et qui ne dit pas ces mots. Mais qui rejoint quelque part celle de la FSCF. Et je l'ai travaillé avec Marie Gaultier il y a 25 ans, avec plusieurs personnes qui relisaient ce caractère historique. À un moment donné, il y a eu des choix qui ont été faits. On a peut-être abandonné le sport. Non, on ne l'a pas abandonné. On a abandonné une manière d'être présent au sport. Et j'écoutais Joël ce matin, je pensais que je réagissais, mais un petit peu je dis, mais il y a une culture peut-être évangélique que nous, les catholiques, on n'a pas du tout. À savoir que je ne vois pas, moi, du tout, intervenir et tout, parce qu'on est en face d'une cité qui est. Mais pour autant, on a une vraie code spirituelle qui est derrière. Et je crois qu'on a besoin de l'écrire tous ensemble.
Mais de toute façon, on ne dira pas, il n'y a pas une spiritualité du sport. Il y a différentes façons de le vivre et que voilà, chacune a ses avantages. Et c'est aussi de dire voilà, comment on travaille ensemble, comment on est complémentaires aussi. De dire que pour caricaturer, la FSCF a sa mission particulière et Joël va avoir sa mission particulière, par exemple. Et on n'est pas en opposition. Chacun va l'exercer de façon différente. Chacun va toucher des personnes différentes. En fait, c'est plus de dire comment on essaye de travailler ensemble et d'être complémentaires.
C'est ça, parce que poser les gens comme question, c'est qu'il a une présence auprès des gens professionnels, qui est intéressante. C'est un peu un rêve. Que moi, je pense qu'il est dans un. C'est une vérité qui est pour moi un rêve. Parce que je ne pourrais jamais faire ce qu'il fait. Pour autant, l'immense majorité des 98,19% des sportifs sont plutôt inscrits dans des lieux laïcs, mais aussi des générateurs à dire. Voilà, c'est complémentaire. Ce que je voulais dire, c'était.
Mais la réalité, alors moi, sans chercher pour être entraîneur de la 3F aussi, diplômé, éducateur, joueur. Quand dans une discussion j'arrive au bar des sports, c'est un des lieux où je passe le plus de temps quand je suis avec l'équipe de foot. Désolé, pardonnez-moi, je me confesse. Lieu de vie. Et bien, quand mon entraîneur, qui est en plus le barman, devant tout le monde me dit révérend, comment allez-vous? Je ne peux pas me cacher. Et quand les joueurs viennent à 2h du matin se confesser, peut-être avec un verre de trop, s'ouvrir à moi et me partager des choses qu'ils n'ont jamais pu dire parce qu'ils avaient honte de les dire, je suis un témoin sans étiquette qui est là pour accueillir. Ce n'est même pas l'aumônier en fonction, c'est le témoin que je suis, c'est le disciple en fait. Et ça se fait en fait naturellement. Et je pense qu'il y a une citation qui a été erroné dans l'histoire, qui était de dire prêche l'évangile et s'il le faut, utilise des mots. Je ne pense pas qu'on puisse annoncer la réalité de la résurrection de Christ, qui est une vérité fondamentale de ce dont on croit, sans l'expliquer.
Sans
le dire. Donc à un moment donné, notre foi, elle passe par les mots, mais elle ne s'impose pas aux autres. On répond de notre espérance. Et c'est en étant dans les lieux de vie, en étant arbitre, en étant dirigeant, que les gens vont nous poser des questions. Et je pense qu'il faut pouvoir saisir ces opportunités pour répondre. Parce qu'il y a un phénomène, sociologique, on se pose des questions, on essaye de mettre un voile dessus. On a la réalité d'une radicalisation du sport aujourd'hui. Et d'un embrigadement à travers le sport. Qui fait cette réalité-là en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un abandon aussi à un moment donné de certaines valeurs? Donc, c'est pour ça que, quelque part, c'est à chacun d'être témoin là où Dieu le place et de trouver la manière dont il va pouvoir l'exprimer. Et je pense que dans l'intime, et on le voit bien, il y a des gens qui ont des questions profondes, existentielles, mais ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus, et même ni à trouver le référent sur à qui je pourrais poser cette question. Et il y en a plein qui sont, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, Paul qui perd courage, et à un moment il a cette révélation de Dieu qui dit « Ne te tais pas, il y a un peuple nombreux parmi nous qui me cherche en fait, mais il attend juste que les chrétiens qu'il soit présent. » Et je pense que c'est à nous d'être en prière pour rencontrer ces personnes. Pascal partageait une expérience dans son club aussi. C'est des circonstances qui ont fait qu'il y a des mots qui ont pu être mis. « Ah, mais en fait, tu es croyant. » On ne le savait pas, et puis il y a des circonstances qui ont pu approfondir. Enfin, moi, je crois, après, c'est des rencontres. C'est beaucoup plus qu'un statut, c'est des rencontres. Et peut-être, oui, il y a un moment où nous a peut-être fait taire. Il fallait peut-être pas en parler.
La question que j'en posais tout à l'heure, la question que tu poses, je l'ai vécu en 30 ans de présence dans l'arbitrage, j'ai toujours gardé des compétences techniques que vous pouvez garder. Hein. Je vais pas m'amuser à utiliser la compétence pour pouvoir parler de Jésus comme un autre pourrait parler de Mahomet ou de Allah. Parce qu'en France, c'est très, très, très. C'est sur des charbons, hein. C'est pas à s'amuser à franchir tout. Mais de là, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quels sont les lieux, ce n'est pas d'être HCL, quels sont les lieux où on peut parler parfois. Et je me suis aperçu que les grands événements sportifs, comme ce qui est arrivé, vont permettre de poser certains lieux pour demain, pour essayer de rencontrer les gens qui se posent des questions. Et c'est là que c'est intéressant de. Alors, il y a différents lieux, mais. Voilà. Mais d'être clair sur finalement, qu'est-ce qu'on entend par spiritualité. Vraiment, est-ce que c'est un prosélytisme, ça c'est dangereux en France. Est-ce que c'est une manière aussi d'entendre les besoins spirituels des gens, donc des chrétiens qui sont chrétiens en eux-mêmes, mais qui ne réagissent pas. C'est ça la spiritualité qui est posée, qu'il faudra bien. Ensemble, je crois.
Alors, c'est peut-être pas la question de la spiritualité, mais c'est plutôt la question de la mise en œuvre, je pense, parce que, entre guillemets, on est tous croyants en Jésus-Christ, mais voilà, on va le mettre en œuvre de façon différente. Puis aussi, il y a la question des lieux. Effectivement, quand tu es en train d'arbitrer un match, tu vas pas dire Jésus t'aime après qu'il y en ait un qui s'est fait massacrer.
je vais dire aux autres, je vais, par mon attitude, ouais. Les gens savent que je ne veux pas mettre une claque, une autre claque. Je n'ai pas le droit. Je vais expliquer, c'est comment les gestes que nous proposons dans le sport du quotidien, je parle, vont être révélateurs de l'attitude interne qui nous habite, et ça, c'est l'aspect. Et beaucoup de parents se posent des questions sur ça actuellement. C'est une question aussi éducative. J'en veux pas mon gamin là-dedans, parce que je sais qu'il revient avec des réactions qui ne sont pas dignes et des comportements qui sont pas dignes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais dans le cas, j'essaie d'expliquer les choses.
La question qui se joue, et je comprends bien, quand je suis éducateur, on me confie des enfants dans un club laïque, je ne vais pas leur dire. Jésus vous aime, ou tenons-nous la main, aimons-nous les uns les autres parce que le Christ l'a. C'est pas mon rôle, parce que là je deviens prosélyte comme toi en tant qu'arbitre dans le même exemple. Mais par contre, je ne peux pas croire qu'à un moment donné, le rôle d'arbitre est le rôle le plus ingrat en ce moment, est compliqué, et il y a beaucoup. On est pas mal ébranlé quand on est arbitre. De voir quelqu'un qui dit mais comment ça se fait que tu as cette paix, alors qu'il y a d'autres arbitres qui n'ont pas ça. Je pense que les gens peuvent poser une question. Et là, tu es libre, en dehors de ton statut d'arbitre, de répondre à cette question. De dire qu'est-ce qui t'anime, en fait. Qu'est-ce qui te motive. En fait, c'est eux qui viennent à nous pour poser des questions. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon club. J'ai rien dit dans mon club. J'ai parlé avec quelqu'un en dehors. On s'est croisé à un arrêt de bus. On a échangé, la discussion est venue. Et c'est lui qui s'est fait comme la femme samaritaine. Il s'est fait le porte-parole, mon ambassadeur, quelque part. Et après, pour moi, c'était du, quelque part, c'était du pain béni. J'avais juste à répondre de mon espérance et après, oh non, non, moi, je suis surtout pas chrétien, non. Ils viennent me chercher, je vais pas fuir. Effectivement, enfin, en tant qu'éducateur et en tant qu'arbitre, tu vas pas arriver, bon alors, il y a des tensions aujourd'hui, on va tous prier pour la paix de Dieu sur le terrain. Non, par contre, toi, tu as la liberté dans ton vestiaire d'inviter la paix de Dieu dans ta vie et qu'elle soit communiquée. Et après, sur les autres, il y a d'autres pays où ça se fait, effectivement. Mais ils n'ont pas les mêmes règles de laïcité non plus, ils ont une religion d'État, et là, on est dans un autre cadre. Effectivement, en France, par rapport à ça, c'est notre devoir, puisqu'on a des problématiques de prière, on a des problématiques de prière dans le football, normalement. Des matchs qui sont retardés parce que des gens font des prières, et là, il faut que ces questions soient posées. Et là, la spiritualité, finalement, vient empiéter sur le sportif au détriment de certains.
Je crois aussi qu'il y a parfois des exceptions qui tiennent au charisme. Moi, je connais un petit peu un ancien capitaine de l'équipe de France de basket, j'avais fait un texte sur lui et je l'ai rappelé parce que maintenant, il est aussi dans la course pour écouter le texte. Et il m'a raconté comment, je crois que c'est à Strasbourg, dont il était le capitaine, le dernier club qu'il a fait jusqu'il y a 2 ans, je crois. Et il m'a raconté qu'ils avaient une équipe un peu exceptionnelle, avec une entente particulière, et qu'il leur est arrivé de prier tous ensemble, alors qu'ils n'étaient plus de religion. Je pense qu'ils n'ont pas tout mélangé, mais ils ont prié ensemble avant des matchs, chacun restant de sa religion. Je ne sais pas comment ils ont fait. Seulement, je connais un peu les briques, c'est quand même. C'est pas un bricoleur. Hein. Et là, c'est une situation particulière où des joueurs différents ont pris cette liberté qui était la leur. Parce
oui,
que,
est sur des joueurs. C'est différent.
Ah non, mais je suis d'accord.
D'un dirigeant, et ça, je pourrais te donner plein d'exemples, dans plein de clubs, ça existe. Je donne juste une anecdote. Joël Abati, joueur de l'équipe de France, multiple médaillé olympique. Qui est chrétien, de la branche protestante, a dit que ça lui est arrivé, ils sont à l'entraînement avec un joueur qui passe par le deuil, même problématique, personne n'a qu'à le dire, il sait qu'on l'appelait le révérend dans l'équipe, donc il se tourne vers ce joueur, et là il prie sur le bord du terrain, ça aurait pu très bien mal se passer. Là, il y avait une situation dramatique, il a fait ça. Autre chose, il gagne, je crois, il gagne la demi-finale, ils vont une place en finale. À l'époque, c'était Jacques Chirac et Lionel Jospin, on en parlait ce matin. Ils descendent dans le vestiaire, et Jacques Chirac fait une boutade, comme il avait l'habitude d'en faire, et puis ça vient la question de Dieu. Il dit, ah mais c'était miraculeux ce match, il gagne à la dernière seconde. Et là, Joël qui se démonte pas, qui dit, mais vous le dites si bien, c'était miraculeux, j'avais invité Dieu. Il dit ça comme ça. Et Jospin de lui dire, vous avez raison, moi aussi je suis croyant. Voilà, dans les plus hautes sphères de l'Élysée, avec des joueurs dans un vestiaire laïque, la question est abordée.
Et puis c'est avec des adultes, tu es d'accord, c'est différent des enfants qui sont dans un club.
Voilà, on va peut-être
La question que tu as posée, que l'expression de l'Église catholique, c'est important parce que je vois en Jeux olympiques, là, j'habite des départements où actuellement les musulmans et tout ça vont très vite. Hein. T'es encore chrétien, toi. Je suis déjà. Donc, eux, ils ont. Comment nous, l'Église aussi, les chrétiens, l'Église catholique, a une position un petit peu claire sur l'aventure de l'annonce de l'Évangile dans des milieux sportifs éducatifs. Ça, c'est important qu'on ait un jour une réponse à des étudiants d'école, parce qu'en face, on a d'autres religions qui ne vont pas perdre de temps, et les Jeux Olympiques vont être un enjeu terrible dans les départements où j'ai. Terrible, hein, ça va être très clair que. Et là, on va laisser les gens face à des incertitudes.
Voilà. Oui, donc il y aura. Donc on va s'arrêter là, mais ça laisse.
Un point avec, par rapport à la question. La notion de spiritualité dans le document est présente. Le référencement se fait avec un ouvrage qui s'appelle Sport et spiritualité, édité chez Routledge, qui est un éditeur anglais, et qui fait référence, c'est-à-dire dans la communauté. Je crois que l'enjeu, derrière ta question, c'est voir comment, au niveau francophone, on peut aussi communiquer, on a parlé de communication ce matin, on peut communiquer sur cette dimension sport et spiritualité pour que, dans notre environnement, on pense aussi, quand on aborde ce sujet, bon, il y a les Anglais, enfin, cet ouvrage qui existe, il existe aussi d'autres, c'est vraiment un enjeu de com', hein, mais dans le sens noble, hein, du digital, pour expliquer ce qui se fait, donc en langue française.
Et de qui se porte en spiritualité?
Alors, bon, je connais deux auteurs, Jim Parry. Jim Parry, je crois qu'il y a Mark Nesmi, ils sont quatre. Mais je vous donnerai la référence.
Oui, bah, il doit être sur le site Église et Sport, parce que ouais. Moi j'ai le livre, donc on pourra te donner les références.
Donc ils ont une collection avec Sport et Transgénérique.